La moto s'est terminée comment alors?
Ben, la moto s'est terminée quand j'ai acheté un petit roadster Fiat qui avait fait des rallyes, un petit roadster Fiat qui avait fait Paris les Pyrénées, des choses comme ça. Ah oui, il était gonflé. Oui, il cavalait, c'était sensationnel. J'ai même fait une pige un jour avec le représentant des Singer, Savoy, il s'appelait. J'ai dit, écoutez, on fait un essai, parce qu'il était un peu dépassé, mon roadster, je voulais autre chose de mieux. On a fait une pige dans une rue là-bas, de Valois, je ne sais plus où il était à cette époque-là. Et au démarrage, il était absolument sur plein.
Vous, vous n'étiez pas là.
Ah non, non,
pendant la moto.
Mon mari, heureusement.
Beaucoup plus tard.
Il lui était facile de faire ce qu'il a fait parce qu'il était seul au monde. Il se passait de lui, il n'en était qu'à personne.
Oui, c'est ça.
Alors, il n'avait aucune tâche. C'était facile de faire de la moto comme il faisait.
Ça marche pour pendant combien de temps, votre truc, là?
Trois quarts d'heure.
Ah bon? À partir du moment où un homme a une femme, des enfants, ben, la compétition moto, tout ça. C'est bien dur, hein. Alors après, il s'est lancé dans la voiture,
donc
il a une MG.
Ah oui, alors après, j'ai une MG, j'ai acheté une MG, et c'est pour Monoy. C'est Monoy qui m'a dit ça. Alors, il me dit, tu te vois avec une moto, tu parles d'un rang social dans la vie. Voilà le genre de jugement qu'on portait sur les motocyclistes à l'époque, tu vois. Comme je vous disais, c'était des gars pleins d'huile, toujours avec des outils dans les mains, enfin, toujours en panne. Il dit, mais achète-toi une petite MG, bah, c'est sensationnel, des voitures, des petites voitures sensationnelles.
Avec la voiture, ils ont fait un tour au bois, et quand ils sont revenus, l'officiel allemand lui a dit, voiture pour promener petite femme, pas pour nous. Et il lui a laissé la voiture. Et malheureusement, il l'a vendue.
Ah oui,
si on avait gardé cette voiture, ce serait extraordinaire.
Et vous savez à qui vous l'avez vendue, où elle est, si elle a pourri ou si elle est conservée? Elle est conservée.
Il sait très bien qui l'a vendue, mais je ne crois pas que ce soit des gens qui aient visité la conserver. Elle était formidable, elle était splendide. Alors comme il est dessinateur, qu'il est artiste, vous comprenez, il aurait pu faire des dessins de voitures extraordinaires, mon âge. Si on avait pensé à lui demander son avis. Hein. Lui, il était contenu dans la mode, la publicité. Mais ça sont des choses qu'on a pu faire quand il avait cet âge-là, mais maintenant il faudrait une fortune énorme.
Oh, écoutez, c'est pas compliqué. J'ai tout. Il remarche votre machin?
Oui, oui, oui.
J'ai toutes les factures de la voiture. J'ai toutes les notes. Elle a été fabriquée avenue de la Défense, tu vois, quand on monte à la Défense.
La Grande Armée.
Oui.
Mais non, pas plus d'un
moment.
Tu racontes. Avenue de la Défense.
Oui, c'est pas. Après le pont de Neuilly, entre le pont de Neuilly et la Défense.
Presque dans le haut. Presque dans le haut, oui. Oui. Et à cette époque-là, il y avait une quantité de petits artisans, de petits garagistes, des carrossiers. Et il y avait un gars dont j'ai vu les motos dans Motorvue qui avait fabriqué ces machines avec un Jap. S'appelait Pierre Ney. Dans vos archives, vous retrouverez des machines au nom de Pierre Ney. Mmh. Et il faisait une machine avec un moteur Jap 500. Enfin, bref.
Il l'appelait Pierre Ney.
La Pierre Ney, oui.
La Pierre Ney.
Oui. Et il s'était reconverti par la mécanique. Il avait remonté un atelier de mécanique. Naturellement, il ne fabriquait plus de machines. Et j'étais en relation, je ne sais plus comment. Enfin bref. Mais ah oui, parce que oui, c'est quand j'ai eu mon MG. Quand j'ai eu mon MG, je cherchais des mécanos qui puissent s'en occuper, et le vendeur, encore une histoire à raconter, le vendeur qui s'appelait Loubière, un type sensationnel, avec son frère, il y avait deux Loubières, il y a eu aussi un essai dans Motorvue, ils avaient fabriqué une voiture électrique. Avec, je crois qu'il y avait quatre moteurs, un moteur dans chaque roue. Un truc sensationnel, ils l'ont essayé à Montlhéry. Enfin bref, je passe là-dessus sur le cas Loubière. Loubière m'a dit, il n'y a qu'un gars dans la région parisienne qui a l'outillage qui permet, parce que les normes anglaises, les écrous anglais ne sont pas les mêmes, il y avait les normes anglaises, c'est comme ça que je l'ai connu. Il y avait, alors il n'y a que lui, il est dans la rue de la Défense, là-bas, Pierre Ney, il s'appelle Pierre Ney, allez le voir, il a les outillages pour les écrous anglais. Et puis on est devenus amis, enfin, j'étais très souvent chez lui quand il vient, c'est lui qui m'a monté mon compresseur solaire. Enfin bref, ah oui, à propos de la Peugeot. Alors donc, je voulais me séparer de ma de mon MG parce que le montage du compresseur solaire avait pas été, c'était formidable à l'arracher, mais il y avait un graissage du compresseur qui était pris sur la circulation générale d'huile. Alors à partir d'une certaine vitesse, il y avait une espèce de force centrifuge de l'huile qui foutait le camp dans la tubulure d'admission, ça noyait les bougies, enfin bref, il était entraîné par chaîne, il y avait un graisseur de chaîne qui en principe devait graisser la chaîne par les buées d'huile du carter. Oui. Seulement il y avait une telle pression dans le carter du fait du compresseur que l'huile ça faisait siphon, vous comprenez? Et l'huile foutait le camp par le tube d'agitage pour graisser la chaîne. J'étais inondé d'huile, j'avais plus d'huile en 100 km. Enfin bref, c'était un bin, c'est épouvantable. La chaîne faisait un bruit de vieux triporteur. Enfin bref, j'ai revendu le compresseur à part, à un autre gars qui a une MG. Et puis, j'ai remis les deux carburateurs, en attendant de procurer autre chose et de la vendre. Et à cette époque-là, j'ai connu des vendeur de voitures, de Peugeot. Il y avait un Peugeot au milieu de la Grande Armée. Je crois qu'il était à la hauteur de chez Renault à cette époque-là. Il n'y a plus de Peugeot.
En haut, de la Grande Armée
Non, à Avenue des Champs-Élysées.
Avenue des Champs-Élysées, oui. Si, tout à fait en haut.
Non, mais il était à mi-hauteur des Champs-Élysées. Ça devait être l'emplacement. Ah, ben il n'y a plus.
Non, Peugeot maintenant est juste avant la rue de Tilsit, là. En montant dans les Champs-Élysées.
En montant. À gauche, au milieu, il y avait un Peugeot.
Ah bon, non.
Vous ne voyez plus. Bon. Alors, je connaissais donc un gars qui était chez Peugeot et qui n'aimait pas vendre des châssis seuls. Alors, je lui dis, tu ne peux pas me commander un châssis, toi, puisque tu es dans la maison, en quelque sorte. Alors, il m'a commandé un châssis de 402, oui, il y a eu tellement. Et j'ai, avec une boîte totale, et on me l'a livré là-bas. Donc ça s'appelle à droite quand on descend après la Défense. Là.
À droite quand on descend.
Oui. Enfin bref, il y avait une grande agence Peugeot à cette époque-là par là. Je crois qu'elle y est encore.
En allant sur le Presbourg, là. Sur Charlebourg.
Oui, enfin je ne me souviens plus des noms. Enfin la grande avenue qui est là, qui descend, pas sous un pont. Enfin, il y a le palais de la Défense, là. Il y a
le CNIT, là, oui.
Oui, il y a le CNIT, là.
Oui, d'accord.
Quand on descend, d'accord. Cette grande avenue-là...
Sur la gauche ou sur la droite?
Sur la gauche. Sur la gauche, il y avait un grand Peugeot qui était
voilà,
là, à cette
c'est
époque.
Toujours Peugeot, mais...
Ah bon?
Oui, c'est repris, c'est la maison mère, là.
Eh ben oui, c'est
le service des pièces détachées.
Oui, maintenant. Bon. Eh ben, c'est là qu'on m'a livré mon châssis 402.
D'accord.
Alors, j'ai fait le trajet entre cet endroit-là et puis le petit atelier qui était dans le haut de la Défense. Et puis, je me suis pointé avec le châssis, assis sur une caisse. Il m'avait emballé les ailes avant, les ailes arrière, il m'avait mis tout ça derrière. J'avais bonne mine, quand on a vu ça de près, on a dit mince. Alors j'ai dit, vous en faites pas, on va faire ça au pif. Alors pendant 6 mois, j'y allais tous les soirs, et tous les soirs, ils me posaient les problèmes qu'ils avaient eu dans la journée pour aménager ça, à tous les points de vue. Et je leur donnais, à mon avis, les solutions. On décidait de tout ça ensemble. Alors, on a incliné la direction, on l'a rallongée de 35 cm, on a fait une pièce, on a rallongé de 35 cm, on a sorti le tableau de bord, alors on l'a fait passer à travers le tableau de bord parce que ça changeait absolument tout, on a mis les instruments à droite, et on a tout ça au marteau, on a refait, parce que le bossage de l'avant, du tableau avant, remonter un peu comme ça, vous comprenez?
Ah si, beaucoup. Vous savez, la moto...
Dites-le-moi si ça vous intéresse. Hein.
Ah, ben,
venez, facture Peugeot 402.
C'est bien classé. La moto, si vous voulez, c'est un biais, mais avant tout, c'est l'automobile avec un cran A. Oui.
Ah bon?
J'aime beaucoup la moto, enfin j'aime beaucoup tout ce qui a un moteur. Et...
Bah, il faudra encore que je les trouve. Ça a l'air classé comme ça, puis en réalité, enfin, je croyais bien les avoir. Quand on cherche et qu'on est pressé comme ça, on ne peut rien.
Enfin, vous êtes pressé parce que je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps, mais moi je suis maintenant.
Ah ben voilà, c'était la même, voilà. Peugeot spécial. Oh combien spécial. Automobile Peugeot. Voilà la facture. Voilà la facture. Chez Delmotte, j'habitais pas là à l'époque. Valeur en compte, on a compte sur châssis 402 légère. 28 février 38. Vous voyez 1000 francs. 1000 francs, c'est-à-dire 10 francs de maintenant. Alors voilà, voilà le. Enfin, j'avais payé 30. Combien? Bon, bref. Voilà. Châssis, avec 15. Oui, j'avais eu 15% grâce au gars. Ça me le mettait à 21 500. Mm-hmm. Vous voyez? Alors, facture, modification mécanique diverse, façon fourniture des bois, façon. Parce que la carrosserie, elle fait en bois d'abord, ouais. Puis on a formé la tôle par-dessus. Façon totale, fourniture tôle. Enfin, elle me revenait à 45 000 de l'époque.
Ouais.
C'est tout de même assez cher, parce que le roadster de chez Peugeot à l'époque valait dans les 37 000. Ouais. Alors voilà donc Pierre May. Vous voyez
ouais.
Alors, il fabriquait des motos avant ce gars-là. Alors, vous voyez toutes les. Quatre charnières, fer plat, rallonge tirette avance, le vis, enfin bref, le montage de l'auvent, des commandes, pédales, plancher, façon de fourrure pour replacer l'auvent dans une autre position, rallonger toutes les commandes, remontage du plancher, usinage d'une pièce acier pour rallonger la direction, fixation de la direction dans sa nouvelle position, bref, il y en a. Vous voyez que tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. Hein.
Bien sûr.
Et même là. Même le gars qui m'a fait la peinture.
Mais alors, c'est vous qui l'avez dessiné avant tout ou au fur
non,
et à mesure?
Non, au fur et à mesure.
Au fur et à mesure.
Oui.
C'est pas cette gueule-là.
Oui. Vous voyez, hein, quand on arrive. Mais alors, inutile de vous dire que partout où je passais, hein, j'avais 20 personnes autour qui mettaient le nez dedans pour voir ce que c'était.
Vous en auriez 500 maintenant.
Je m'étais servi de tout, vous voyez. C'était les ailes de série, j'avais mis des phares encastrés.
Ouais.
Alors vous voyez un avant qui n'en finissait plus. Alors la capote c'était des arceaux, alors avec des espèces de boutons moltés mm-hmm. par-dessus, enfin bref. Elle avait une belle gueule, hein.
Très très belle.
Alors j'ai eu un accident un jour, il y a un cheval qui m'est rentré dedans, et on a changé la calandre. J'en ai profité pour mettre la calandre de la 402B. C'était pas la 402B, celle, ouais. C'était la. Elle faisait 19 centimes, ouais. Et tout ça, c'était des pièces de Peugeot, c'était l'auvent de la voiture de série.
Mmh. Ah, ça, c'est du beau.
Mais les constructeurs font des pommes, ils ne savent pas dessiner des voitures. Incroyable. Chaque fois qu'une voiture nouvelle sort, je suis navré.
Vous allez au salon de l'auto?
Oui,
oui. Vous allez enfin, pas?
Ça dépend, si j'ai du boulot, je n'irai pas. Mais...
Je vais vous donner une
carte. Ah, oui,
c'est un problème. Excusez, je peux pas vous en donner beaucoup.
Oh non, moi, ça m'intéresse pas. Je vous remercie.
Je viens de vous en voler une.
Là, je vous en prie.
On est loin de la moto là pour l'instant. Hein.
Oui, on est loin de la moto, mais enfin, c'est bien intéressant.
Ah oui, alors, l'odyssée de cette voiture, j'ai fait environ 20 000 km avec, puis là, la guerre est arrivée. Naturellement, j'ai reçu une convocation des autorités militaires pour la faire passer à la réquisition. Alors, j'ai mis du benzole dedans, enfin, j'ai fait un tas de trucs, enfin bref, j'ai fait en sorte que tu sois dégoûté, quoi. Je leur dis qu'elle marchait qu'au pinceau, j'ai ouvert les réservoirs, j'ai dit regardez, alors le gars, comme elle avait une allure de voiture de course, les gars, ils ont dit bon, ben, on vous la laisse. Et puis là-dessus, je suis parti en guerre, la France avait besoin de ses combattants. Et puis quand je suis rentré, entre-temps, mes cousins avaient pris la voiture et s'étaient barrés avec. Ils étaient passés chez moi et j'étais d'accord avec eux, naturellement. Enfin, ils avaient fait leur exode avec ça. Ils sont rentrés, la voiture est rentrée de zone libre en zone occupée, et elle a été naturellement enregistrée à la ligne de démarcation. Donc, les Fridolins avaient tous les renseignements, et deux fois, j'étais convoqué pour la réquisition. Seulement, à chaque fois, ça ne correspondait quand même pas à ce qu'ils voulaient. C'était deux places, c'était trop spécial. C'était une voiture trop spéciale d'aspect. Enfin, bref, ils me l'ont laissé. Et puis, on parlait de malgré tout, de réduction de pneus, ceci, cela. Alors, j'ai eu l'occasion d'apprendre, j'ai vendu, mon garagiste me l'a repris. À cette époque-là, on ne se rendait pas encore compte que l'inflation était galopante. Alors, il l'a acheté un peu plus cher que le prix qu'elle me revenait. Je lui ai laissé. Après la guerre, 6 mois après la guerre, j'ai eu une offre Le gars m'en avait déjà offert, je l'avais déjà dû la vendre dans les 50 et quelques mille francs de l'époque. Il y a un gars qui m'a dit, ta voiture, tu l'achètes 600 000 balles. Vous voyez le genre, déjà, tout de suite, je me suis vraiment mordu les doigts. Enfin bref, entre-temps, j'aurais probablement été malgré tout récupéré, parce que ils ont fait la razzia des voitures en partant, il restait plus rien.
Enfin, vous ne savez plus où elle est et ce qu'elle est fait, déjà.
Non, elle doit être... Elle doit être morte. Vous savez, ça a l'air séduisant comme ça, une voiture faite comme ça. Mais en réalité, c'est pas un coup à refaire. Il faut vraiment être du métier pour faire une voiture. Parce que rien n'est prévu pour d'abord les métaux. Les métaux sont stockés dans un atelier pendant un certain temps, les plaques de tôle. Alors, elles sont à l'humidité. Il faudrait de la tôle double décapage. Il faudrait qu'elles subissent des traitements, qu'elles soient phosphorées. Vous comprenez?
Oui.
À l'heure actuelle, les voitures de série, les tôles, elles passent dans elles sont phosphorées à deux ou trois reprises. Et puis elles ont des couches d'après et qui permettent, elles sont préparées pour résister. Alors, au bout d'un an déjà, la peinture se soulevait un peu partout. C'est une raison qui ont fait que je l'ai laissé filer, vous comprenez? Alors, les gars n'avaient pas l'expérience, les tauliers, parce que ça a été fait entièrement à la main. Hein. Alors, les tauliers n'avaient quand même pas l'expérience d'une usine. Alors, les jeux entre le capot, par exemple, et puis l'auvent, n'étaient pas assez grands. Alors, tout ça, ça jouait un peu, forcément, ça joue. Alors, il y avait des bruits, des grincements un peu partout. Enfin, bref, une voiture, il faut que ce soit étudié, vous comprenez. C'était un premier essai, mais enfin...
esthétiquement,
oui. Ouais. Ça a été une belle aventure, quand même. J'ai bien rigolé.
L'arrière fait penser à une Jaguar X400.
Oui, oui. Pour l'époque, hein. Notez que j'avais quand même regardé les deux Delahaye, bien regardé, il y avait des voitures, il y avait des autres voitures. Hein. Mais enfin, ça a été une réussite et une vanne, parce qu'avec les éléments que Peugeot m'avait donné avec le châssis, quand on a vu arriver ça, vous savez, avec un auvent qui montait à cette hauteur, un pare-brise, pour arriver à faire ça avec ce qu'il m'avait donné. Puis vous savez que, tant que j'y pense, regardez, j'ai une dédicace de Gordini m'a offert de courir avec lui. Quand j'avais ma Fiat, ma première voiture,
ouais.
C'est Gordini qui a été mon mécanicien.
Ah bon?
Mon premier mécano, c'était Gordini. Quand j'ai eu l'MG, c'était Pierre Ney parce qu'il avait une pillage, mais ma Fiat, c'était Gordini.
Et où il était, Gordini?
Il avait un atelier à Suresnes, hein, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'est l'Etat de la République ou un truc comme ça. C'était juste...
Vous l'aviez rencontré comment?
Eh bien, par Louvière, par le vendeur.
Ah,
le vendeur de ma Fiat, le fameux gars qui avait fait cette voiture extraordinaire à mon avis.
Oui, d'accord, électrique.
Oui, il m'avait dit... je connais un mécano sensationnel, et voilà, allez le voir, il vous réglera ça. Parce que ma Fiat, c'était une voiture spéciale. Alors que toutes les Fiat de l'époque avaient des soupapes latérales, là, il y avait une culasse Fiata, une culasse à culbuteur, et puis un carburateur horizontal, et il y avait une quatrième vitesse intercalée, je ne sais pas comment ils avaient fait leur compte, parce qu'elles n'avaient que trois vitesses, les Fiat, à l'époque, les petits Roadster Fiat. Enfin, c'est une voiture qui faisait 115, quoi. Alors que les 510, ou je ne sais plus quoi, comment ça s'était, elle faisait 85 à peu près. 85. Oui, alors c'est donc Loubière qui m'a dit, je connais un gars sensationnel, allez voir Gordini, l'État de Suresnes, enfin bref, c'était devant les usines, je dis c'est Talbot ou Hispanour, enfin c'était
Talbot,
juste,
là-bas, ouais.
Juste devant les usines de Talbot. Oui. Alors il avait un garage, il travaillait là avec son frère, et il était très dévoué, que quand on s'attardait, même après le dîner, on partait sur la route, je réglais les carburants, enfin bref, le carburateur. C'est comme ça que j'ai connu Gordini, et il a vu que j'aimais ça, et il m'a fait un jour une proposition, parce qu'il commençait à courir lui, il commençait. Alors sa grande astuce à Gordini, c'était de faire des carrosseries ultra légères. Alors finalement, il faisait ce qu'il fallait sur le châssis, mais il faisait une carrosserie en aluminium qui avait exactement la gueule de la carrosserie ordinaire. Elles arrivaient à peser 15 kg, ces carrosseries, je ne sais pas comment ils arrivaient à faire. Alors il m'a dit ça textuellement, monsieur Delmotte, je vous fais une offre. C'est l'époque où sortaient les petites Gorgini Sport,
ouais.
Les toutes premières. Je vous fais une offre, vous achetez la voiture, je vous fais toute la mécanique, toute la mise au point, et on fait les circuits, on fait tout ensemble.
Dommage que vous n'ayez pas.
Non, même vous savez, moi je n'étais pas fou, hein. J'avais été échaudé avec la moto, je savais que en fin de compte,
ouais.
À combien ça revenait, et puis enfin, je travaillais, hein. Il fallait que je sois présent le lundi matin à 9h, et puis on avait la semaine anglaise, c'était tout, hein.
Ah oui, parce que vous n'étiez pas indépendant, là.
Ben, j'étais salarié, c'était
pas... Ah oui, d'accord.
Jusqu'à la guerre, j'étais salarié. Ouais. Et c'était même les seules périodes de tranquillité que j'ai eues, parce qu'après, quand on est plus salarié, croyez-moi, c'est un peu hein. Alors là, c'est autre chose. Alors là, il n'était pas question que je refasse quoi que ce soit.
Ouais,
hein.
D'accord.
Alors, c'est plus 7h30 par jour, hein. C'est 14 et 15 heures, quand on est à son compte. Hein.
Alors, ben, là, c'est une très belle histoire.
Oui.
Finalement, c'est ça, et moi je veux pousser, si vous voulez, là-dessus, dans la revue. Il n'y a pas. Et à l'amour de la mécanique, finalement,
oui.
Mais la moto, la voiture, c'est la même.
C'est ça. Alors, pour résumer, vous pouvez dire que j'ai eu un amour forcené pour la mécanique. Parce que, comme ça, on parle comme ça de choses en mode général, mais je suis arrivé quand même à. Ça marche pas mal de choses en mécanique, pour gonfler des moteurs
et
tout.
Bien,
ça va bien. Vous savez, beaucoup plus que bien des gens hein, qui sont même des mécaniciens professionnels. Je vous dis pas que de gaieté de cœur, j'ai montré mon moteur, parce que malgré tout, j'ai jamais aimé le cambouis. Mais techniquement, j'en connais un petit bout. Alors la base de tout ça, c'est un amour de la moto, un amour de la mécanique, un amour du moteur de course.
De course.
De course. La vérité, c'est l'amour du moteur de course. Alors j'ai un ami qui fait collection de vieilles voitures, il a des P14, il a des C4, il a des tas de trucs, lui il a des yeux qui sortent de la tête devant sa collection, mais moi ça me laisse froid, parce que pour moi ça n'a aucun intérêt, vous comprenez?
Je comprends bien. Et si vous voyez mes motos, ça ne présenterait pas d'intérêt pour vous, parce que j'ai que des motos, si vous voulez, de...
Non, pour... Bah oui. Alors, une Brèche, une CP Roléo, un truc comme ça, ça ne m'amuse pas, vous comprenez? Une terre latérale, ou même les culbuteurs, ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où c'est un truc qui passe que...
Ouais. Et de temps, vous n'avez jamais intérêt.
Non. Et d'ailleurs, je trouve que la technique, la politique actuelle qui fait qu'on fait des 750 de temps, je trouve ça complètement aberrant.
Ça va vite, hein?
Oui! En course, c'est valable pour la course. Ouais. Mais c'est pas valable en tourisme.
Oui, mais la course, c'est pour faire marcher le... Pour faire manger de l'istec, si vous voulez.
Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez une machine qui vous boulotte en tout vous voulez, vous n'allez pas me dire que c'est valable. Bon. Et d'ailleurs, à partir de 500, je trouve que les cylindrés, c'est dément. Vous voyez, je trouve que c'est dément, parce que... Ça, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de motocyclistes capables de les pousser. Enfin, il y a des questions maintenant, puisqu'on est limité à 130. Enfin, juste avant ça... Des machines de 750 qui peuvent marcher et qui peuvent friser le 200, je trouve que c'est absolument dément que des gens sans expérience achètent des trucs pareils,
ouais,
vous comprenez,
ouais,
ou alors il faut qu'ils s'en servent en pépère, et alors qu'ils s'en servent en pépère...
Autant avoir une 250.
Oui. Bon, jusqu'à 500, la moto, c'est valable. Il faut dire que c'est un peu différent quand même, parce que moi j'ai connu une époque où les machines étaient légères. Ma 500, ma D50, elle faisait 135 kg. Vous vous rendez compte? C'est le poids d'une 125, presque, à l'heure actuelle. Et j'avais plus de 30 chevaux à la roue. Hein. Alors, 135 kg, il n'y avait pas de suspension, il n'y avait pas le poids des amortisseurs, le poids des ressorts, le poids de la fourche arrière, les machines étaient beaucoup plus légères. 135 kg, si la moto sacoche d'avant, c'est 10 kg de plus, mais pas plus. Enfin, si j'avais vraiment les moyens, si la conjoncture était différente, croyez-moi, je racheterai une moto.